Oui. Donc, on va faire l'histoire. Et on va faire l'histoire depuis la construction du deuxième Beth Amikdash jusqu'à la destruction d'abord du deuxième Beth Amikdash, l'époque du deuxième Beth Amikdash. Donc, il y a 2 ans, on a fait donc le Tanakh, depuis que les Juifs sont rentrés en Eretz Israël jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, après l'exil de Babel et la construction du deuxième Beth Amikdash. Maintenant, là on avait arrêté Ezra Nehemiah, si vous vous rappelez, on a arrêté Anshe Knesset Gedola. On va reprendre donc l'histoire du peuple juif d'Anshe Knesset Gedola jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors, pourquoi l'étude de l'histoire est primordiale? Du fait que l'histoire, c'est quelque chose qui se répète. Pourquoi elle se répète? Parce que l'histoire est faite par l'agissement des individus et du public, des gouverneurs qui s'entendent pas, des guerres, de paix, des mouvements sociaux, des heurts entre les différentes tensions, les avis qui sont différents pour la vie, pour la cité, que ce sera dans le monde goy, que ce sera dans le monde juif. Et les problèmes d'une société, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a aujourd'hui, bien que certaines choses ont changé, mais le fond de l'être humain n'est pas tellement différent. Donc les problèmes et les solutions que les gens se cherchent, à tort et à travers, à bon sens ou à mauvais sens, sont souvent les mêmes. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie l'histoire, pas seulement l'extérieur de l'histoire, mais il saisit l'intérieur de l'histoire. Disons, je vais prendre un exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui vont étudier la Deuxième Guerre mondiale, ils peuvent étudier des millions de détails. Et comment cet avion est tombé ici, il a détruit cette maison ici, et comment lui se sauver. On peut étudier des millions de détails. Et on peut se perdre dans ces détails. Et on peut éventuellement être émerveillé ou intéressé par l'histoire, mais on ne pige pas le fond de l'histoire. Le derrière de l'histoire, ces gens-là qui ont fait l'histoire, la grandeur ou la petitesse des êtres humains, que ce sera les chefs ou que ce sera les individus. Pourquoi c'est devenu comme ça? Le pourquoi et le vrai pourquoi. Il y a le faux pourquoi, il y a le vrai pourquoi. Il y a les raisons, les petites raisons à la fin qui ont fait l'histoire. Et il y a le fond de la raison qui a fait que l'histoire elle se passait comme ça. Si on étudie cette partie de l'histoire, dans ces cas-là, on peut déshabiller une histoire, les détails, et les datations, les personnages, le pays, on peut habiller sur cette histoire et tout à fait une autre histoire qui se passait 1000 ans plus tard dans un autre endroit. Et on voit que ça se passait exactement la même chose. Et donc, si on est intelligent et on comprend les erreurs dans une certaine histoire, à une certaine époque, on a bien compris comment cette société, ces sociétés ont vécu, ils se sont trompés, ils se sont massacrés, ils ont souffert. Et si je pige le fond, après je peux sauter 1000 ans, je peux sauter 2000 ans, je peux vivre dans un autre siècle, mais je comprends ici, il se joue la même chose. Et si les gens, ils ont la mémoire, et si les gens, ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé avant, on pourra éventuellement corriger le tir et vivre mieux et éviter les pièges. C'est pour ça que la Torah demande d'étudier l'histoire. Marqué dans Chumash, Parshat Hazinu, comme il est marqué dans le Pasuk, Shbinu Shnot Dor Vador. Quel est le début du Pasuk? J'ai oublié le début du Pasuk. Hein? Comment c'est le début? Shbinu Shnot Dor Vador. Il y a au début. Zechor Yemot Olam. Voilà, le Pasuk me revient. Zechor Yemot Olam. Binu shnot dor vador. Sha'al avicha ve'yageidecha zekenecha ve'yomru lach. C'est-à-dire, zechor, rappelle-toi, yemot olam, les jours d'autrefois. Binou, réfléchissez bien, je note d'or à d'or les années de chaque génération. Ça, c'est quelque chose de très important et nous allons essayer de le faire. Je vais donner un exemple pour illustrer ce que je viens de dire avec quelque chose qui est très actuel. Si vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé la semaine dernière à Genève, vous êtes au courant? Vous n'êtes pas au courant. Bon, vous êtes sûrement au courant, mais pas grave. Si vous n'êtes pas au courant, je vais être au courant. Depuis quelques années, depuis 10 ans, depuis 15 ans, les Iraniens, ils veulent fabriquer une bombe atomique. Oui, ils fabriquent de l'uranium, ils ont de l'uranium enrichi, ils ont des centrifugeuses, toujours plus et plus, et avec plutonium, etc. Bon, je ne suis pas physicien, ça ne change pas. Ils sont en train de fabriquer une bombe atomique. Mais ils disent que le nucléaire que nous faisons, c'est pour des raisons civiles. On voudrait fabriquer de l'électricité. Avec le nucléaire, on peut fabriquer l'électricité. On peut faire un deuxième, une fois qu'on a bien maîtrisé le phénomène nucléaire pour civil, on peut fabriquer après une bombe. Maintenant, les Iraniens, ils fabriquent comme des malades, depuis une dizaine d'années, comme des malades, enrichissement de l'uranium. Alors, les Israéliens, ils disent, ils veulent faire une bombe atomique. Et les Iraniens, ils ont dit, on va détruire l'État d'Israël. Comme ça, ils ont dit clairement, et pas seulement le président, mais tous les jours, le pays, le peuple, recevra des messages que les Juifs sont ceux qui embêtent le monde. Et c'est une mitzvah de les tuer, on les bourre le crâne. Alors ce phénomène de voir un président avec un peuple faire une propagande qu'il faut détruire le peuple juif, ça c'est quelque chose que nous les Juifs, on la connaît très bien. On l'a déjà entendu, c'est pas nouveau pour nous. Alors maintenant, une fois c'était il y a 60 ans, c'était l'Allemand qui a fait la même propagande. Maintenant c'est les Iraniens, c'est vrai, c'est un autre peuple. Mais le leitmotiv, ce qui est derrière, c'est exactement la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passait? Écoutez bien. Les Américains et les Français et les Anglais et plein des pays, ils ont dit c'est très dangereux, ils trichent, on va essayer de les empêcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que les Iraniens, comme ils ne veulent pas nous écouter, ils ne veulent pas qu'on visite leur centre nucléaire. Ils ne veulent pas montrer qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc, c'est une preuve qu'ils trichent, qu'ils veulent faire une bombe. Parce que si c'est pour civil, ils peuvent nous laisser se promener. Donc, ils ont dit, on va... Quoi?
Des virus, non?
Ça, c'est aussi, ils ont mis un virus là-bas, oui. Mais ils ont empêché les Iraniens de faire des bonnes affaires. Ça veut dire que plein d'argent, plein de business au monde qu'ils font, ils ont stoppé. De façon que l'Iran commence à souffrir depuis longtemps de manque d'économie. L'économie est en train de s'écrouler. Mais ils sont têtus jusqu'au bout. On leur dit, vous nous laissez se promener dans vos centres nucléaires. Nous allons vérifier que vous ne faites pas la bombe. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire business avec le monde entier. Tout l'argent que vous avez stocké en Amérique, en Europe, on va vous rendre. Si vous trichez, vous ne voulez pas nous laisser se promener, on bloque votre argent. Alors les Iraniens, ils ont fâché avec qui? Avec les Israéliens. À cause de vous, on est pauvres. Les Israéliens disent, laissez les chefs de nucléaire rentrer et on va vérifier. Non, ils ne laissent pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent lui faire la bombe. Voilà, ça c'est depuis des années. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à Genève? Il s'est passé un théâtre. Il s'est passé qu'en fin de compte, les Américains et les Russes et les Anglais et les Allemands et qui sont les autres, j'ai oublié, les Chines, ils ont décidé, ça va, on va ouvrir le business à l'Iran. Et eux, ils vont nous donner un tout petit peu, quelque chose, une toute petite, ils vont céder quelque chose de tout petit, mais dans le fond, ils n'ont rien cédé. On veut redevenir des amis des Iraniens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à quoi ça vous rappelle? Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Munich en 1938? Hein? Quoi? Munich 1938, ça vous dit quelque chose? Ah, si ça vous dit rien, c'est une preuve qu'il vous manque un morceau de l'histoire très importante. C'est pas grave. Mais Munich 1938. 38, il se passait un événement assez important. Hein? Qu'est-ce qu'il se passait? Hitler, il a dit qu'il veut exterminer le peuple juif. Et il veut conquérir toute l'Europe. Il veut exterminer les Juifs. Il a dit clairement. Alors les Anglais, les Français, ils avaient peur. Ils ont dit, oulala, le type, il veut... Alors lui, il a dit, bon, je vais manger d'abord la Tchécoslovaquie. D'abord, ça m'appartient. Alors les autres, ils ont dit, pourquoi ça t'appartient? Comme ça, j'ai besoin de respirer. J'ai besoin de devenir un peu plus grande. Si vous n'êtes pas d'accord, je fais la guerre. Je fais la guerre contre l'Anglais, l'Angleterre, contre la France, contre le monde entier. Mais si vous vous taisez, vous me laissez manger la Tchécoslovaquie, alors je vous promets, je ne fais pas la guerre. Alors, il avait demandé, les Anglais, les Français, tous, venez, on va signer. Je vous jure, je ne fais pas la guerre. Si vous me donnez la Tchécoslovaquie, je ne ferai pas la guerre. Mais tout le monde, il savait que quoi? Qu'il triche. Parce que tous les jours, il fabriquait plus de tanks et plus des avions. Tous les jours. On lui a dit, si vous ne faites pas la guerre, pourquoi vous fabriquez des tanks toujours plus et plus? Si à la paix, on n'a pas besoin. C'est mieux que vous utilisez votre argent pour l'économie de votre pays qui est ruinée. Pourquoi vous mettez tellement beaucoup d'argent dans le militaire? Elle a dit, c'est comme ça, pour rien. Mais tout le monde, il a compris que quoi? Qu'il s'agit de préparer une guerre. Alors lui, il a dit, laissez-moi prendre la Tchécoslovaquie. Taisez-vous et je vous promets, je ne fais pas la guerre. Alors, il y a un monsieur qui s'appelait Daladier. Vous connaissez Daladier? Daladier, c'était le ministre extérieur français. Daladier, l'autre, il s'appelait comment? L'anglais, il s'appelait? Ah, j'ai oublié. Hein? Alors, après, venu un homme qui s'appelait Churchill. Ben, lui, il était autrement. Mais l'anglais, il s'appelait? J'ai oublié comment il s'appelait. Bon, ça ne change pas. Ils ont parti là-bas. Et ils ont signé. Alors, ils sont revenus à la maison. Ils ont dit, on s'est fait humilier parce qu'on a cédé, donné un pays, la Tchécoslovaquie, cadeau à un gangster comme c'est Hitler. Mais on a sauvé le monde de la paix. Alors, Churchill, lui est devenu après le président d'Angleterre. Lui, il a dit, vous êtes des grands idiots parce qu'Hitler va lui faire la guerre. Maintenant, vous vous êtes fait humilier et vous croyez que vous avez sauvé le monde de la guerre. Vous êtes humilié et vous allez lui avoir la guerre. Et comme Churchill il a dit, comme ça c'était, une année après 1939, Hitler il a commencé la guerre, d'abord il a écrasé la Pologne, après il a fait la guerre contre toute l'Europe. Ça veut dire quand on s'incline devant un rachat, on voit clairement les preuves qu'il veut lui faire la guerre. Et on s'incline pour sauver la paix. Maintenant, ceux qui se sont passés à Genève, exactement le même phénomène. Les Iraniens, ils ont dit, on vous laisse pas rentrer chez nous. Et on continue à enrichir. Mais on vous promet qu'on ne fait pas la bombe. Alors, si vous ne faites pas la bombe, pourquoi vous ne laissez?
Il va faire la bombe, tout sauf qu'ils s'en fichent. En vrai. Ils ne vont pas empêcher de le faire parce qu'ils veulent nous protéger. En vrai, ils s'en fichent de nous. Quoi.
Alors, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec le monde. Mais eux, ils ont dit clairement qu'ils vont jeter la bombe sur Eretz.
Hein?
Alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant, quelque chose incompréhensible. Peut-être c'est incompréhensible. Il devait signer, vendredi soir, il devait signer cet article. Il y en a un qui n'a pas signé. Et qui c'est ce un? Oui, qui c'est, comment il s'appelle? Laurent Fabius, le ministre extérieur français, il dit, je ne signe pas. Ils veulent détruire Israël. Pour le moment, je ne signe pas. Il y en a un qui a compris qu'il s'agit de Munich. Il y en a un qui a compris. Tous les autres, Obama, tous les autres, ils ont oublié.
Mais je crois pas qu'ils... J'ai l'impression qu'ils font exprès. J'ai pas l'impression qu'ils...
Ça veut dire quoi, ils font exprès? Ils veulent que l'État d'Israël s'écroule? C'est ça qu'ils veulent?
Ben oui, c'est ce qu'ils veulent. D'une... Ça veut dire parler du, par exemple, Obama, par exemple, il va plusieurs fois aller en Israël et tout ça, pour parler, disons, pour le partage de Jérusalem et tout ça, alors qu'entre-temps, la Syrie est en train de se faire sauter. Ça veut dire, ça veut rien dire. S'il veut la paix dans le monde, mais
je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent. C'est difficile à comprendre, mais le fait, on dirait qu'ils s'en fichent que les Juifs ils existent. On dirait qu'ils s'en fichent. Seulement, c'est une capitulation. Alors, comment ça se fait qu'ils ont Fabius et l'État tzadik? Alors c'est possible que Kadosh Baruch Hu lui a mis ça dans la tête. C'est possible. Il a mis ça dans la tête parce que quoi, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de quelqu'un, il a eu mérite, il a fait une fin de mitzvah. Peut-être il a dit une fin.
Il
un kaddish, quoi.
D'accord, il est pas malade.
Pas encore. Ils ont dit, dans 10 jours, on va. Dans 2 semaines, on va continuer à discuter. Et Florent Fabius, il dit, peut-être vous, les Iraniens, ils vont faire des concessions un peu plus. Peut-être je vais lui signer. Pour le moment, je ne signe pas. C'est possible qu'il a fait ça parce qu'il a fait le Brit Mila à son fils. Florent Fabius, il est juif, sa femme aussi, il est juif. Il a fait le Brit Mila à son fils. Peut-être que ce route lui a protégé. Kadosh il a pris sa tête pour faire une bonne chose. Ou c'est possible, c'est tout à fait autre chose.
Hein?
Qu'est-ce qu'il gagne de tuer? D'abord, c'est pas Fabius, d'abord, c'est Hollande qui lui a dit de dire ça. C'est Hollande.
Ah, c'est Hollande.
Oui, on peut tuer pas comme ça, on gagnerait à tuer quelqu'un. Qu'est-ce que tu gagnes?
Non.
Non, non. Non, mais si Hollande, par exemple, il a envie de changer son avis, c'est le ministre de l'Extérieur qui décide dans ça?
Ou... Non, c'est Hollande qui décide. C'est Hachem qui décide, lui a utilisé. Seulement, c'est possible qu'en vérité, il y a quelque chose d'autre derrière. Parce qu'il y en a un autre pays aussi qui est très en danger à cause des Iraniens. C'est qui? C'est l'Arabie Saoudite et le Bahreïn et les parce que chez les musulmans, il y a deux, il y a les chiites, il y a les sunnites. Ils se tuent, ils se détestent à mort. Donc l'Arabie Saoudite, qui sont des sunnites, ils veulent non plus que les Iraniens en bombardement. C'est possible que l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils ont dit à M. Hollande, écoutez, ne signez pas, ne laissez pas la bombe atomique. Seulement les Arabes, ils ne peuvent pas les dire tellement clair. Parce que comme les Iraniens ici veulent détruire Eretz, et l'Arabie Saoudite veut aussi qu'on détruise Eretz, donc ils ne peuvent pas dire soyez contre. Mais en vérité, eux, ils ont encore plus peur que les Israéliens. Sauf qu'ils ne peuvent pas le dire pour ne pas apparaître comme les amis des Juifs. En vérité, l'Arabie Saoudite veut aller avec Eretz contre l'Iran. Mais comme c'est des Juifs, c'est des Arabes. Donc, soi-disant, on est copains avec les Arabes en Iran, mais en vérité, on déteste les Iraniens parce que vous pigez, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave.
Mais tous les pays, ils ont des intérêts avec l'Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'ils peut-être qu'ils veulent avoir dans leur poche l'Iran pour être sûr qu'après, une fois qu'ils ont dans la poche l'Iran, ils peuvent leur faire tout ce qu'ils veulent. Si c'est eux qui font relancer l'économie, c'est un très gros atout. Par exemple, Barack Obama.
Qui va relancer?
Barack Obama, il a plein. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, on a tout ce qu'il fait dans l'Arabie Saoudite. Il a des intérêts là-bas.
Alors.
Donc, il fait exprès de signer pour avoir dans la poche l'Iran et pour que quand il a envie de demander quelque chose à l'Iran, ça veut dire que. S'il va dire à l'Iran, lui, fait pas la bombe atomique, lui, il a un intérêt dedans, il a aidé l'Iran.
Ouais.
L'Iran, il ne peut plus refuser.
Mais les Iraniens sont des insolents. Ouais. Tu peux leur aider, ils prennent tant que tu aides, après, ils s'en foutent de toi, ils le savent très bien. Chacun pays cherche son intérêt. Et l'intérêt des Iraniens, c'est de devenir riche et détruire les Juifs. Ça, c'est son intérêt. Et pas seulement ça, ils veulent conquérir le monde en plus. Les Iraniens, ils ont. C'est une mégalomanie. En vérité, quand on étudie la Torah, et le Tanakh est un peu plus profond encore que M. Hollande, que M. Obama. On voit tout à fait autre chose encore derrière. L'histoire que je raconte ici, que ce qui s'est passé à Genève, ça ressemble à Munich, c'est visible à chacun qui a le mémoire de ce qui s'est passé à 60 ans. On voit exactement c'est la même chose. C'est pour ça que je dis, de l'histoire, on doit apprendre. Quand je dis maintenant, les Iraniens, ils ont des idées de vouloir conquérir le monde, ça, de toute façon, ils le disent clairement. Quand on étudie leurs livres et ce que disent, c'est ça qu'ils disent. Et des Chachamim, ils disent que les Juifs, ils étaient dans 4 exils. Comment s'appelle le premier exil?
Babel.
Babel. L'Égypte, ça c'est avant Matantor. Je parle maintenant après que la Torah ait été donnée. Babel. Après Parasumadai. Yavan. Et après Edom. Edom. Alors, Babel, c'est l'Irak. L'Irak est tombé après dans la main des musulmans. Parasumadai, c'était l'histoire de Haman, Achashverosh, qui voulait nous exterminer. C'est la Perse. Mais la Perse et le Babel, ce sont 2 dynasties, ce sont 2 philosophies. Comme aujourd'hui, l'Irak et l'Iran, c'est pas les mêmes. Les Babyloniens, c'est des Arabes. Les paras ne sont pas des Arabes, c'est des Perses. Ils se détestent à fond, ils ne peuvent pas supporter les paras. Ils se sentent très, très supérieurs vis-à-vis de l'Arabe.
C'est les Iraniens, non?
Iraniens, oui. Yavan, ça c'est la Grèce, et ça c'est une grande partie de l'Europe. Les peuples grecs, c'est la culture grecque. Et après, il y a Edom. Rome, on dit normalement, ça c'est la chrétienté. Maintenant, il est marqué dans la Sfarim qu'avant que Mashiach y vienne, tous les 4 vont se réunir en vérité contre les Juifs. Il y a tous les quatre. Mais chacun, il a une autre idée dans la tête. Chacun, en vérité, veut régner. Les Américains, ils veulent régner avec leur culture. Les Perses, ils veulent régner avec leur culture. Les musulmans veulent régner avec leur culture. Mais tout le monde déteste les juifs. Alors.
Les Américains, c'est d'hommes.
Alors, c'est une partie des d'hommes. Alors, en vérité, tout est mélangé un petit peu. C'est pas, les choses sont pas très claires parce qu'en Amérique, il y a un melting pot. C'est plusieurs choses ensemble. Mais une partie des Edom, c'est aussi la France aussi, c'est Edom. L'Allemagne aussi, c'est Edom. Les peuples qui étaient éduqués à la chrétienté. Seulement, dans la chrétienté, c'est un petit peu comme Esav, c'est notre frère et c'est notre ennemi. Il y a des choses avec lesquelles il nous ressemble. Il y a des choses qui veulent que, en vérité, ils ne supportent pas que nous existons. Seulement, dans chaque pays, HaKadosh Baruch Hu, il a fait de la sorte que la méchanceté ne peut pas trop sortir. Pourquoi? Parce qu'HaKadosh Baruch Hu, il a mis la Torah chez chacun un peu. C'est-à-dire, les Juifs, HaKadosh Baruch Hu, il a mis les Juifs qui étaient dans ce pays, ils ont partiellement injecté dans ce pays un peu de vérité. Il y a un peu de lumière dans tout ce pays grâce au peuple juif. On leur a donné, aux Perses, aux Yavan, à Babel, on leur a donné des idées qui sont justes. Mais ils ne le supportent pas, mais ils sont quand même influencés. Sûrement, les grands antisémites, en effet, ils ne supportent pas que leur peuple ait été influencé par les Juifs. Parce que les Juifs, ils ont donné des midot, ils ont donné Rachmanout, ils ont donné une droiture, Emouna Hashem. Les grands Rechaïm ne supportent pas que leur propre peuple ait été influencé par les Juifs. C'est pour ça qu'ils veulent extirper l'influence du peuple juif chez eux. En tout cas, pour revenir, ça c'est simplement une petite introduction que je donnais. Ce n'est pas important maintenant pour le fond. Le fond, il est qu'il faut étudier l'histoire. Et de façon qu'on ne s'accroche pas à une personne, à une ville, à une armée, pour analyser la chose. Mais le fond de l'histoire, il faut analyser. Et après, on peut transposer cette histoire dans d'autres lieux. Et ça peut rendre quelqu'un intelligent. Et le Maasé, même les goyim, les historiens ou les profs d'histoire, il y a en France, il y a des profs d'histoire. Ce que, je ne parle pas de ce historien qui est simplement là pour faire son cours, pour gagner son argent, il s'en fout en vérité de transmettre une culture. Mais le prof d'histoire qui veut transmettre une culture, ça veut dire, disons, quelqu'un qui est un peu idéaliste, il sait que le but de transmettre l'histoire, c'est de transmettre un savoir de culture qui aide après aux gens de réfléchir et pouvoir améliorer après, de prendre d'autres décisions, de meilleures décisions que nos parents ils ont pris. Alors, je donne un exemple, les goyim ils ont compris ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un monsieur qui s'appelle Robert Schumann? Alors, qui c'est ce monsieur? C'est quoi? Économique, pas seulement économique, mais ils ont dit que toute l'Europe va faire un pays. Pourquoi? En 1950, il a créé l'Europe. Un pays qui s'appelle l'Europe. Pourquoi il a eu cette idée? D'où ça vient? Il a vu qu'on fait des guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et avant, il y avait des guerres au 19e siècle, au 18e siècle. Il a dit, différents pays, on se dispute, on va tous venir un pays et tout est bien. Maintenant, est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il a tort? Je ne rentre pas dedans. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible? Ça, c'est maintenant une autre discussion. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ça, c'est pas ça. Mais je dis simplement, lui, il a dit, étant donné que nous voyons dans l'histoire que quoi, que les peuples européens, tout le temps, ils s'entretuent, alors on a qu'à devenir des amis ensemble. Il y a un président, il y aura un pays, comme ça on se dispute pas, comme les États-Unis. Aux États-Unis, il y a quoi? Il y a 50 États-Unis. C'est des États, il y a 50 États, ils sont unis, et depuis longtemps, il n'y a plus de guerre aux États-Unis d'un pays à l'autre, parce qu'on a une monnaie, on a un président, on est fier d'être États-Unis. On travaille tous ensemble. Il y a une espèce de collaboration de tous les. Alors donc, Schumann il a dit, on va faire que tous les Européens, ils vont aussi avoir ce sentiment. Est-ce que c'est un rêve ou c'est pas un rêve? Ça c'est une autre question. Alors, donc, nous allons continuer à étudier maintenant l'histoire. Nous revenons à l'histoire juive. Donc, dans l'histoire juive, évidemment, dans notre propre histoire, nous devons analyser binu shnot dor vador. Réfléchissez chaque génération. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération? Qui était le chef? Comment était le peuple? Est-ce qu'ils étaient religieux? Ils n'étaient pas religieux? Ils étaient riches? Ils étaient pauvres? Ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi? Politiquement, religieusement, éducativement, comment ils ont vécu? Et bien comprendre ça, et après, ça pourrait nous aider pour notre époque aussi. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas étudier l'histoire. Ils veulent tout oublier. La conséquence, c'est quoi? Que dans chaque génération, ils sont obligés de refaire les expériences. Et quand on refait tout le temps les expériences, alors souvent, on perd beaucoup de temps et des hommes et des années pour rien du tout. Il y a des gens dans leur vie, comment il a dit ça? Il y a un monsieur de 70 ans. Il y avait ici un monsieur, il n'était pas religieux. Ça ne change pas. C'est pas de nafkamina. Il a raconté quand il avait 25 ans, il a divorcé sa femme. Bon, là, il y a un problème, il a divorcé sa femme. Maintenant, il a 70 ans. Il a raconté dernièrement. Il a dit, j'ai raté ma vie, j'aurais pas dû divorcer. Quand j'avais 25 ans, j'étais sûr qu'il faut que je divorce. Et je trouvais mon bonheur. Et après, j'ai divorcé, je n'ai pas trouvé mon bonheur, je me suis trompé, j'aurais dû rester avec elle. Maintenant, j'ai 70 ans, la vie est passée. Si quelqu'un pourra se trouver dans la même situation que moi, à 25 ans, je lui dis qu'est-ce que moi j'ai vécu, comment elle était. Et il y en a d'autres personnes aussi, peut-être ils vont passer la même situation. Alors je leur dis, ne prenez pas le choix que moi j'ai fait. Parce que moi j'ai fait le choix du divorce et je croyais, et ça aurait été mieux comme ça. Ça veut dire quoi? La Torah demande de s'instruire chez des gens âgés. C'est une grande chorma quand on a des parents, des grands-parents, et on écoute l'histoire, l'expérience des grands-parents. On écoute leurs conseils. La Torah nous dit, respecte les personnes âgées. Ce n'est pas seulement respecter les personnes âgées pour la personne âgée, mais respecte la sagesse qui pourrait être profitable. Les jeunes qui n'ont pas des parents, qui n'ont pas des grands-parents, qui croient qu'ils savent tout seuls, alors ils se plantent. Ils peuvent perdre 5 années, 10 années, 20 années, 30 années de leur vie en se plantant. On ne voulait pas écouter. Mais il y a des gens qui ont l'expérience. Maintenant, les parents aussi ont fait des erreurs. Et autrefois aussi, ils ont fait des erreurs. Oui, évidemment. Il faut apprendre dans leurs erreurs. On raconte une histoire. Il y avait quelqu'un qui était dans un forêt, il s'est perdu. Vous connaissez l'histoire de forêt? Il s'est perdu. Et depuis 4 jours, il cherche, il ne trouve plus la sortie. Et il trouve un monsieur avec une longue barbe. Ah, bonjour monsieur. Ah, heureusement. Et vous connaissez la forêt? Il dit, je connais très très bien la forêt. Ah, bon, si vous connaissez la forêt. Alors, ça fait 4 jours que je suis dans la forêt. Et je cherche la sortie, je n'arrive pas à trouver. Alors, le monsieur, il a dit, ah, bon, heureusement que vous êtes tombé sur moi, je pourrais vous aider. Il dit, ah, vous pouvez m'aider, alors dites-moi où est la sortie. Il dit, je ne sais pas. Ça veut dire quoi, vous ne savez pas? Et vous êtes ici depuis quand? Moi, je suis depuis 60 ans ici dans la forêt. Et qu'est-ce que vous faites? Je cherche la sortie. Et vous ne l'avez pas trouvée, je n'ai pas encore trouvé. Alors, pourquoi vous me dites, vous pouvez m'aider? Il dit, je vais te dire. Je pourrais t'aider pour dire qu'est-ce que j'ai déjà exploré. Je peux te dire où il n'y a pas de sortie. J'ai déjà tout ça, j'ai déjà essayé, il n'y a pas de sortie. Il reste qu'ici un petit peu, donc cherche dans ce coin-là. Il y a des gens qui, de leur expérience de vie, ils peuvent dire aux gens comment il ne faut pas vivre. Comme ça, il y a des générations que nous pouvons apprendre ces décisions qu'eux ont prises, il ne faut pas prendre. Maintenant, il faut prendre d'autres décisions. Bon, ça, c'est une petite introduction. Maintenant, nous allons revenir aux faits. Alors, donc, l'histoire juive. Vous vous rappelez ce qui était déjà là à l'époque? On a fait un schéma, un calendrier. D'abord, on fait un calendrier, donc 2-3 minutes, afin de comprendre l'histoire juive dans des grandes lignes pour savoir se situer. Alors, nous sommes depuis la création d'Adam Harishon. Nous sommes quelle année aujourd'hui? 5700. 5774. Est-ce que dans le monde Goy, il y a un mémoire plus loin que ça? Je parle de mémoire humaine. La civilisation celte, la civilisation chinoise, la civilisation indienne, la civilisation égyptienne, elle date de quelle date? Hein? Combien? Les Égyptiens, vous prenez les livres de ce que la mémoire raconte, pas de ce que les preuves, entre guillemets, morts, des squelettes qu'on trouve, qu'on fait, Carbon 14 ou d'autres choses. Je parle de ce que les gens racontent, que ce qui est écrit, qu'on raconte, qu'on sait. Vous allez voir que la mémoire du monde entier s'arrête à 5000 ans. Il n'y a pas de mémoire plus loin que ça. Dans tous les pays du monde, en Asie, en Afrique, en Europe, ça s'arrête à peu près 4000, 4500, 5000 ans. Avant, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Exactement. À peu près, après ça c'est, on ne sait plus qu'est-ce qui se passait avant. Il n'y a pas de transmission. Alors, 5774, très bien. Alors pour nous, Adam Arishon était né l'année 1. Nous allons prendre les grandes dates pour après voir quel siècle nous étudions. L'année 1, Adam Arishon est né. Oui. Quoi? Vous avez un meilleur marqueur? Vous avez un meilleur. Sans toujours de. Voilà, non, on va voir. Voilà, oh, il est bon celui-là. Adam Arishon. Maintenant, le déluge était quelle année? 1656. Ça, c'est le Maboul. D'où on sait? Parce qu'il est marqué dans la Torah qu'Adam Arishon a vécu 130 ans quand il est né son fils Chet. Chet, il a eu son fils. Enlevez ça, les trucs là. Enlevez. Mettez ça à côté. Alors, Maboul, c'est marqué, lui, il a vécu tant et tant, et quand il est né, et on dit, Noach, il avait 600 ans pendant le déluge, donc c'est 1656. C'est clair. Après, Avraham Avinu, il est né 1948. Facile à se rappeler. Yitzhak, il est né combien d'années après Abraham? 100. Donc, il est né l'année 1848. Alors, les Juifs sont sortis d'Égypte. Combien d'années après la naissance d'Yitzhak? Enlevez maintenant, enlevez les trucs. Mettez. 4 siècles après, depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est 400 ans. Donc ça fait 2448, on a déjà parlé, ça c'est la date de la sortie d'Égypte et Matan Torah. La sortie d'Égypte et Matan Torah, ça c'est une année clé. 2448, très bien. Après, ils ont entré en Eretz Israël quelle année? 40 ans après. Et depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du premier Migdash, il y a combien d'années? Oui, beaucoup. Ça, c'est exact. C'est exact. Ça, c'est précis. Alors, 480 ans. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du premier Migdash, 480 ans. Donc, ça fait quelle année? Construction. Donc, c'est Shlomo Ameler. C'est quelle année? Hein, 2000?
900.
Alors dites. 28. D'accord. Maintenant, le premier Beth Amikdash a existé combien d'années? 410 ans. C'est marqué dans la Tanakh, tous les rois, etc. 410 ans. Donc, la destruction du premier temple était l'année 3338. Il y a toujours des 8. Après combien d'années durait l'exil de Babel jusqu'à la construction du deuxième Beth Amikdash? 70. Donc le deuxième Beth Amikdash était construit. Donc construction du deuxième, c'est 3408. C'est la construction du deuxième Beth Amikdash. Maintenant, le deuxième Beth Amikdash a existé combien d'années? Hein? 420. Donc, il était détruit. La destruction du deuxième. Hein? 3828. Très bien. Et nous sommes quelle année aujourd'hui? 5774. Moins 3828. Donc, Combien d'années existent depuis la destruction jusqu'à chez nous? Ça fait combien? Qu'est-ce que je mets ici? Un 6, 3, un 4. Ici, je mets un 9. 1946 ans. Donc, nous sommes l'année 1946 ans. Et si on va prendre chez les Goïm un chiffre rond de l'année 68, le Chorban du Beth Amikdash, hein, c'est juste le calcul ou pas? C'était l'année 68. C'était l'année 68. Pas 70, soit l'année 68. On ajoute 68 années. Ça fait que chez nous, combien? Ça fait combien? Si c'est 8, ça fait combien? 4 plus 1. 1 et 6, ça fait 7, ça fait 1. Il reste 0. Il reste 2014. C'est quoi 2014? C'est l'année qui arrive, 2014. Donc, va arriver l'année 2014. On est 1946. Parce que là, le Chorban du Mikdash, c'était l'année 68. On tombe sur nos pieds. Hein? Bon, c'est clair. Maintenant.
C'est quoi 68?
L'année 68, il y avait la destruction du Beth Mikdash. Chez les Goïm, quand on dit la destruction du temple, chez eux, ils ont fait la calendrier après l'imaginaire de l'essence de l'autre. Ils ont fixé un certain année. L'année 1 et l'année 68, qu'ils ont fabriqué rétroactivement, ils ont fixé une certaine date. Ils ont dit l'année 68, donc ça tombe 2014. Bon, maintenant, ce que nous voulons donc analyser, c'est quoi? C'est la construction du deuxième Beth Amikdash jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, c'est 4 siècles. Ça dure 420 ans. Alors, pendant ces 420 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur les Juifs. Alors, géographiquement, nous allons voir ici géographiquement où les Juifs ils ont vécu à cette époque. Alors, la majorité des Juifs ont vécu en Eretz Israël. Et une grande minorité a vécu à Babel. Et il y avait des Juifs aussi dans d'autres pays. Alors, donc, pour schématiser, la destruction du premier Mikdash a été faite par quel roi? Qui était le roi? Nebuchadnezzar. Qui était le roi de quoi? De Babylonie. Et où c'est Babel? C'est une ville. Où se trouve cette ville Babel? En Irak, au milieu de l'Irak. Cette ville a été rasée, était détruite, est tombée en ruine. Au milieu de l'Irak, à côté de l'Euphrate, il y a une ville qu'on sait encore aujourd'hui, les ruines de l'ancien Babel, l'empire de la capitale, c'était gigantesque cette ville Babel. Après, elle est tombée en ruine. Donc le roi Nebuchadnezzar, il l'a détruit. Il a pris les Juifs qui habitaient en Eretz Israël, il les a éparpillés en Irak, il les a éparpillés en Iran, tout le Proche-Orient était plein de Juifs. D'ailleurs, l'histoire d'Achashverosh, il nous dit que les Juifs, ils étaient dans combien de provinces? 127 provinces, Mihodou Vatkouch, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, Turquie, partout il y avait des Juifs. Très bien. Quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, donc les Juifs ils sont revenus en Eretz Israël. Mais beaucoup de Juifs ils sont restés à Houtzlaretz. Donc il y a des Juifs qui restaient en Babylonie, il y a des Juifs qui restaient en Turquie, il y a des Juifs qui restaient en Égypte, etc. Très bien. Alors, qui était le chef? Ceux qui ont construit le deuxième Beth Amikdash, c'était les Juifs qui sont revenus et qui étaient à leur tête? Alors, à leur tête, qui étaient les chefs religieux et qui étaient les chefs politiques? Alors, ici, à Kadesh Barouch, il a fait un cadeau au peuple juif. Quel cadeau il a fait? Que les chefs politiques et les chefs religieux étaient les mêmes. Et ça, c'est un cadeau. Comme ça, ça a été à la sortie d'Égypte aussi. Qui était le chef religieux à la sortie d'Égypte? Et qui était le chef politique? Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, qui était le chef politique? Et qui était le chef religieux? Yoshua. Moshe kibel Torah mi Sinai, ou Messara li Yoshua. Yeshua était le Chacham. C'était l'élève de Moshe Rabbeinu. Il était prophète. Il était le chef d'armée. Il était le chef politique. Il disait aux Juifs, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, c'était quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Maintenant, quand ils ont construit le Beth Amikdash, qui était le chef politique? Shlomo. Et Shlomo Melech, il était prophète au même moment. Il était Chacham. Tu es le plus grand Talmid Chacham de sa génération. Shmuel était déjà Niftar avant. Shmuel, il a nommé David Ameler, mais Shmuel n'a pas connu Shlomo. Alors, où j'étais? C'est vrai que Shmuel, dans son époque, était le chef politique, était le juge, et il était le prophète, et le Chacham, le chef du Sanhedrin. Le chef du Sanhedrin et le prophète et le chef politique, ça, c'est la meilleure forme, en tout cas, qu'on peut s'imaginer. Maintenant, quand il y avait, après, à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait des rois, il y avait des prophètes, il y avait des Chachamim. Mais qu'est-ce que l'histoire nous montre? Que les rois, ils étaient souvent corrompus. Et entre les rois et les prophètes, il y avait des tensions. Les rois ne voulaient pas écouter ce que les prophètes disaient. Quand le roi était tzaddik, il écoutait les prophètes et on faisait que les juifs étaient religieux. Et quand les prophètes et quand les rois ils étaient corrompus, alors les juifs ils avaient plusieurs chefs, le prophète d'un côté, le chaché d'un côté, les juifs religieux, le roi corrompu, une bande autour du roi qui sont corrompus, qui ne sont pas tellement religieux, et ça donnait beaucoup de tensions. Et ça, c'était une des raisons de tension entre les deux royaumes à l'époque du premier Mikdash. Alors, la fin de l'histoire a été, le Beth Mikdash a été détruit, les Juifs sont partis en exil. Maintenant, ils sont revenus pour construire le Beth Mikdash. Quand ils sont revenus pour construire le Beth Mikdash, qui était le chef? Alors, les Anshe Knesset HaGdola. Anshe Knesset HaGdola. Donc, ce sont combien? 120 Chachamim. 120 sages. Parmi eux, il y avait plusieurs prophètes. Un des prophètes, le plus grand des prophètes, il s'appelait comment? Ezra. Ezra HaSopher. On l'appelle Ezra HaSopher. Il était prophète, il était Kohen, et c'était le plus grand Chacham, et il a reçu la permission, pas seulement de construire le Beth Amikdash, mais il a reçu la permission du roi perse de être le chef des juges et de diriger le peuple comme lui comprend. Et Ezra, il a dit, pour nous, c'est un peuple qui est religieux. Nous avons une religion. Cette religion, c'est la Torah. Et nous avons des Chachamim. Et tous les Juifs, ils doivent marcher dans le chemin de la Torah. Et le roi Koresh. Qui c'est ce Koresh?
Le fils
d'Esther Amalka. À quel jour il est derrière, là, il tire les ficelles derrière. Vous savez qu'est-ce que c'est les marionnettes? Il y a un truc des marionnettes. Tu joues des marionnettes, il y en a un en haut qui tire. Dans l'histoire du monde, il faut bien comprendre que les personnages sont souvent des marionnettes qu'Akadéocho derrière et tire les ficelles. Alors, oui?
Quand ils ont détruit le premier Beth Amikdash, les gens qui vivaient au premier Beth Amikdash, ils savaient qu'il y avait un deuxième?
Est-ce qu'ils savaient qu'il y aura un deuxième? Je n'ai pas compris qu'est-ce que vous dites.
Si, on est
au premier Beth Amikdash. Ouais, vous êtes au premier Beth
Amikdash. Pour nous, le premier Beth Amikdash, il est éternel.
On ne sait pas. Ça, on ne peut pas savoir. On ne sait pas comment vous.
Non, mais il ne savait pas que.
On ne sait pas. Peut-être il va être détruit, peut-être non. On ne sait pas.
Est-ce que si, quand on imaginait la destruction, on imaginerait qu'il y en aurait un deuxième?
Quand le prophète, quand Yeshaya Hanavi, il a parlé de la destruction. Yeshaya Hanavi, il a dit, si vous ne faites pas teshuva, il y a un risque de destruction. Il a dit que Hachem, un jour, il va ramener les Juifs de l'exil. Ça veut dire, il savait qu'à la fin du temps, tous les exilés vont revenir en Eretz Israël. Si c'est un troisième ou un deuxième, ça c'est un détail. Yeshaya, il a dit, si vous ne faites pas teshuva, j'ai peur qu'il y aura une destruction. Et vous allez partir en exil, mais un jour, Hachem, il aura pitié, vous allez tous revenir en Eretz Israël. Maintenant, si les Juifs, ils avaient fait Teshuva à l'époque de construction du deuxième comme il faut, peut-être le deuxième, il aurait pu devenir le dernier.
Mais alors, ça veut dire que le troisième, finalement, il peut...
Il aurait pu être le deuxième. Le deuxième, il aurait pu être le dernier.
Peut-être qu'il
peut
y avoir un quatrième, un cinquième, un sixième,
un sixième. Ah, sur ça, les prophètes, ils ont dit que non. Ils ont dit que non. Il n'y aura pas un quatrième. Hein?
Je
n'ai pas entendu. Un quatrième, il n'y aura pas. C'est ou le deuxième ou le troisième. Ou le premier.
Comment les gens
Tout quoi? Je n'ai pas compris.
Non, mais, non, je comprends pas le concept que ça veut dire que les gens vont faire ce qu'ils veulent parce qu'il, et en sachant que le vitamine S ne va pas être détruit.
Non, il peut détruire. Quel? Le troisième. Le troisième. Ah, le troisième ne sera pas détruit. Il y a un laps du temps de choix. Il y a un laps de temps de choix. Il y a après, il n'y a plus de choix. Ça veut dire, à Kadesh Baruch Hu, il a donné de Nisyonot, on dit pour 6000 ans. Après, le Yetzer Hara, il va être écrabouillé. Les prophètes, ils disent, il y a un moment que Kadesh Baruch Hu, il casse le cœur de pierre des gens et les gens, ils vont être gentils. C'est-à-dire, maintenant, il y a un Yetzer Tov, un Yetzer Hara. Alors, si les Juifs ils seraient comportés correctement à l'époque du premier, peut-être le premier aurait été éternel. Ils ont fauté, ils ont tout été détruits. Mais Hachem, il a dit, ça ne va pas être éternellement détruit. Donc, il a fait un deuxième. Maintenant, ce deuxième, éventuellement, il aurait pu être...
Mais d'où ils avaient qu'ils allaient reprendre un deuxième? Parce qu'ils ont mis le prophète.
Qui ça? Et ça, c'est Yirmiya, leur a dit, dans 70 années, il y aura un deuxième.
D'accord, alors en fait, quelqu'un, il aurait pu se lever à la fin de la destruction du deuxième Betamidash. Il a dit, de la même façon que nous, on a été... Enfin, les gens de Babel, ils ont été en exil, mais finalement, on peut reconstruire un troisième.
Oui, ils voulaient le faire. Allez. Après le Khorban, 30 années après, ils voulaient construire le troisième, oui.
Pourquoi ça s'est pas fait?
Parce que les Romains, ils n'ont pas laissé.
Mais si, est-ce qu'il y aurait pu y avoir une prophétie qui disait que le troisième Betamigdash, ou alors le troisième Betamigdash, il faut le mériter? Parce
les deux choses.
Parce
oui.
Ils l'ont eu aussi par fatalité, parce qu'ils ont dit que 70 ans après...
Yirmiya, il leur a dit.
Yirmiya, il leur a dit, voilà, 70 ans après, il y a toujours le Betamigdash.
Oui.
Maintenant, ça veut dire que même s'il n'avait pas mérité, il aurait dû venir, techniquement. Parce
oui.
On avait décrété que 70 ans plus tard.
Oui.
Donc ça veut dire que le troisième Betamigdash, il ne pourra jamais être décrété comme ça, il ne sera que parce qu'on l'a mérité.
Non, même si on ne mérite pas, il viendra.
Ah, même si on mérite,
Mashiach, il vient, il peut venir que tous les juifs sont tzadikim ou ils sont tous le contraire, il viendra quand même. Mashiach, il vient, okulo zakai, okulo chayaf.
On croit que Mashiach, il peut arriver tous les jours.
Il peut venir tous les jours. Éventuellement.
Alors, il faut croire qu'il va y avoir une situation où tous les Israéliens vont être sages à tout le monde.
Non, tout le monde, c'est majorité.
Oui, bon,
pas tout le monde, majorité. Ou tout le monde, majorité de tzaddik ou majorité le contraire. Il pourrait être qu'aujourd'hui, il y a majorité de tzaddik. Qu'est-ce qu'on appelle tzaddik? Ça, c'est Hachem qui connaît les détails. On peut arriver que ça y est, c'est bon. Ça veut chaque jour, Hachem, il peut juger comme ça ou il peut juger le contraire. Quoi? À la rigueur, ça pourrait se jouer sur une personne, à la rigueur, oui. Dans l'absolu, ça peut se jouer sur une personne.
Mais en fait, ça veut dire si on vit au premier Betamigdash, normalement, le Betamigdash, est-ce que le premier Betamigdash était censé durer éternellement?
S'ils n'auraient pas fait des bêtises. Il y a différents chemins chez Hachem. Dans l'ordinateur d'Hachem, il y a plusieurs programmes. Comme chez Adam Rishon. Est-ce qu'Adam Rishon avait été obligé de fauter? Et s'il n'avait pas fauté, où il aurait vécu? Et les enfants, ils auraient vécu au Gan Eden. Donc, il y avait un programme 1. Si Adam Rishon ne faute pas, tout le monde reste au Gan Eden. Mais il y a dans le programme, s'il faute, on va le foutre dehors. Maintenant, si on le met dehors, les 10 générations jusque déluge, il va être tzadikim ou reshaim. Si on va être tzadikim, alors c'est super bien. À Kadesh Baruch Hu, il aurait donné la Torah à tous les goyim. Mais non, ils ont descendu. Donc, il fallait amener un baboule. Après, le monde aurait pu monter, mais ils n'ont pas monté, ils ont descendu. Alors, à la fin, Hachem dit, bon, maintenant, c'est programme numéro 67,042, et il a donné aux Juifs la Torah. Il y avait beaucoup de programmes dans le projet d'Hachem, comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de possibilités.
D'accord, mais quand eux, ils étaient... Quand ils ont levé le premier Betamigdash, il a été détruit, pour eux, c'était sûr qu'il y allait en avoir un deuxième.
Il y aura un deuxième, ça c'est sûr. Ah, ou peut-être le deuxième sera éternel ou pas éternel. Oui.
Maintenant, si le deuxième n'est pas éternel, alors on a un troisième, et le troisième, il est éternel.
Voilà. Comme ça, il est marqué. Le troisième sera éternel. Il n'y aura pas après l'exil du deuxième.
D'accord, mais ça veut dire qu'à la fin, si on ne mérite pas Pourquoi on devrait se casser la tête si de toute façon, si Mashiach vient, si on n'est pas méritant, on ira chier. Ça veut dire quoi? On va tous mourir? Alors, ça veut dire que le monde, il va être pour personne?
Non, les gentils vont pas mourir.
Mais non, alors, non, mais si je veux
Tout le monde raisonne quoi? Que tout le monde dit les rachats? Mais pas tout le monde raisonne comme ça. Il y a des gens qui disent, moi, je veux être tzaddik, moi. Ah, il y a peut-être des gens qui veulent que tout le monde sera rachat, comme ça. Hein?
Comme ça, après... Non, moi, qu'il y a... non, parce que finalement, si de toute façon il arrive, ouais. Moi, je me dis, si de toute façon...
Machiach reviendra. La question, est-ce que vous allez être en première loge ou en dernière? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on va vous servir des gâteaux ou est-ce qu'on vous donne des trecha, comme on dit en yiddish? Ça change beaucoup, ça. La Deuxième Guerre mondiale, n'était pas obligé d'être... Si les Juifs seraient comportés bien... On aurait pu avoir le Mashiach sans la Deuxième Guerre mondiale, si on se comportait comme il faut. Bon, quand on ne s'est pas comporté comme il faut, alors c'est arrivé ça. Et on ne sait pas encore combien des étapes il y a jusqu'à Mashiach. Bon, mais Mashiach est bien. Si Monsieur X est religieux, il n'est pas religieux, il viendra quand même. Peut-être pas mourir, mais peut-être passer par la moulinette. Peut-être pas mourir, mais souffrance.
Alors ça veut dire qu'on va avoir des souffrances quand même. Ouais.
Peut-être, non mais peut-être non, si on mérite, il viendra sans souffrance.
Alors il peut mieux le mériter que pas le mériter en fait.
Enfin, elle est arrivée à la conclusion. Mieux vaut que Mashiach revienne quand nous le méritons. Là, il viendra et avec il sera accueilli gentiment de notre part. Et après, ce sera beaucoup d'honneur et facile. Et avec beaucoup de joie. Et si Mashiach est obligé de venir en catastrophe, alors il vient quand même, mais en catastrophe, c'est-à-dire plus de souffrance, il risque d'avoir plus de souffrance. Il viendra.
Je comprends pas, alors ce sera
pas
une délivrance.
Ce sera une délivrance. Mais une délivrance. Une femme, elle accouche un bébé. Il y en a des femmes qui accouchent avec, comment ça s'appelle, avec péridurale. Comme elle est à la poste. Et il y en a des femmes, ça fait mal. À la fin, le bébé, il est là. Mais une femme, elle est épuisée, elle a souffert. Et l'autre, elle est heureuse, elle reçoit son enfant comme un cadeau. Alors ça, c'est la question, comment il vient. Ça, c'est pour nous, après pour l'honneur d'Hachem. À que des jours, il veut amener Mashiach, que ce sera, que les gens, ils attendent. Que les gens, ils ont, que ce sera avec bonheur, pas... Qu'elle est obligée parce que le monde ne peut pas continuer sans lui. C'est pas respectueux vis-à-vis d'Hachem qu'on l'oblige de l'amener en dernière instance. Alors.
Alors, juste un petit message d'Agdola, c'est après la destruction du premier.
C'est à la construction du premier.
Ah,
deuxième, voilà. Anchegnesedagdola, c'est les 120 Chachamim avec Ezra Sofer. Il y a un homme qui s'appelle Nehemia. Et le chef religieux est politique. Et il est le plus grand Tamid Chacham. Il est entouré par 120 Chachamim. Et quand ils ont venu à Yerushalayim, ils ont réuni tous les Juifs. Au début, il y avait 42 000 Juifs. Il n'y avait pas beaucoup de Juifs. La majorité est encore à Babel. Les Juifs sont venus doucement, ils sont venus. Pas tout le monde au début. Au début, il n'y avait pas beaucoup de Juifs. Il y avait 42 000 et ils sont venus à fur et à mesure. Nehemia, il y avait d'autres prophètes parmi eux. Il y avait Haggai, il y avait Zecharia, il y avait Malachi. Il y en a qui disent que Malachi, en vérité, c'est le même que Ezra, mais dans les 12 prophètes, il s'appelle Malachi. Alors, Haggai, Ezra et Malachi, il y avait Mordechai. Ça vous dit quelque chose, Mordechai? Le roi des Perses, il est venu à Yerushalayim, il faisait aussi partie d'Anshe Knesset Gdola. Il y avait un homme qui s'appelait Zerubbabel. Qui c'est ce Zerubbabel? Lui, c'est le fils de son père. Hein? Bon, ça ne nous dit pas grand-chose. Son père, c'est qui? C'est Yechonia. Mais qui c'est Yechonia? Yechonia, c'est le dernier roi juif. Le dernier roi juif qui était à Yerushalayim, à la destruction, Yechonia. Yechonia, il était exilé en Babylonie. Et il a eu un fils de Zerubbabel. Et Zerubbabel, il est venu en Eretz Israël. Et lui était le premier roi juif à Yerushalayim. Il faisait aussi partie, c'était le copain de tous ces Knesset Gdola, c'était une groupe des grands tzadikim. Et ça, c'est un miracle qu'Hachem il a fait, que le deuxième état juif, le premier état juif, c'est Yeshua ben Nun qui a fait, qui rentre en Eretz Israël. Et le deuxième état juif, c'est Anche Knesset Gdola qui l'ont construit. Et comme ils étaient tzadikim, ils ont mis le peuple juif sur les rails de la Torah et ils ont géré politiquement le pays. Alors, maintenant, les Anche Knesset Gdola, ils ont fait plusieurs choses. D'abord, ils savaient qu'ils sont les derniers prophètes. La prophétie va s'arrêter. Parce que la génération, ils ont vu que la génération méritera bientôt plus la prophétie. C'était les derniers prophètes. Alors, ils ont fixé des règles de jeu. Comment le peuple juif va rester religieux sans qu'il y ait des prophètes? Quand il y a des prophètes qui parlent la parole d'Hachem, les juifs respectent. Il n'y aura plus des prophètes. Donc, pour renforcer la vie du peuple juif sans prophétie, ils ont pris des précautions. D'abord, les précautions, ils ont fini les Kitvei HaKodesh. Ça veut dire qu'ils ont terminé qu'est-ce qu'on appelle la Sainte Écriture qui est écrite par Ruach HaKodesh. Donc, nous avons combien de livres? Les Kitvei HaKodesh, combien nous avons? 24. Nous avons 24 Kitvei HaKodesh. Ils sont partagés en trois parties. Kitvei HaKodesh, les Saintes Écritures, tout ce qui était écrit par Ruach HaKodesh. Alors, nous avons la Torah qui était écrite par Moshe. Il y a combien? Il y a 5 livres. L'auteur, il est Moshe Rabbeinu. C'est un auteur très spécial parce que chaque mot était dicté par Hachem. Chaque mot dans la Torah est dicté par Hachem. Moshe Rabbeinu, 5 livres. Après, il arrive le livre de Nevi'im. Alors, quels sont les livres de Nevi'im? Nous avons Yehoshua. Nous avons le livre de Shoftim. Shmuel. Alors, qui a écrit le livre de Shoftim? C'est aussi Shmuel qui a écrit. Mais c'était Yehoshua, il a écrit son livre. Il a écrit son livre. Après, il y a le livre de Shoftim. Ça couvre 4 siècles, jusqu'à presque 3 et demi siècles, des différents juges. Chaque juge, avec les chachem de la génération, ils ont transmis ça. Et c'était écrit aussi par Shmuel. Quand on dit Shmuel, ce n'est pas lui personnellement. C'est bien sûr tout un groupe des chachamim ensemble. Ils ont retenu ce qu'il faut retenir. Donc, il y a le livre de Shoftim. Après Shmuel, il a écrit ce que nous appelons Shmuel Aleph. Parce que Shmuel Anavi, il est mort à la fin de Shmuel Aleph. Shmuel Bet, Shmuel n'a pas vécu. Ça, c'est l'histoire de David Amelech. On appelle ça Shmuel parce que Shmuel est loin David Amelech. Donc, il y a le livre de Shmuel qui raconte tout ce qui s'est passé à l'époque de Shmuel et à l'époque de David et Melech. Après, il arrive le livre de Melachim.
C'est qui Shmuel Bet, alors?
Shmuel Bet a été écrit par... Shmuel Bet a été écrit par qui? Ça, c'est l'époque de...
David
de Shmuel Bet, après que la ptira de David... Non, après la ptira de Shmuel, David et Melech, c'est Gad HaChosé et Nathan Hanavi. Le livre de Shmuel Hanavi était écrit par Nathan Hanavi et Gad HaChosé. C'est les deux copains de David et Melech qui étaient les prophètes, les grands prophètes de la génération. Après, il y a le livre de Melachim. Le livre de Melachim a été écrit dans chaque génération un peu. Et après, il y avait Chizkia Melech. Et après... Ça a été terminé, Yirmiyahu Navi, et c'était terminé par Anshe Knesset HaGdola, le livre de Melachim, si je ne me trompe pas. Donc, il y a un livre de Melachim.
Non, mais Melachim,
non? Ça, c'est un livre, Alephabet. Alors, ça, c'est jusqu'à le livre Melachim, c'est jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. Ils ont écrit là-bas les trucs. Après, il y a 12 prophètes. Il y a 3 grands prophètes, on appelle les grandes. Yeshaya, Yirmiya et Yeheskel. Alors, Yeshaya, c'est le premier qui était 150 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Yirmiya est le contemporain de Choban du Beth Amikdash. Et Yeheskel, il est aussi contemporain, mais il a vécu un peu plus longtemps encore en Babylonie. Après, il y a 12 petits prophètes qui sont regroupés en un livre. Alors, donc, il s'appelle Hoshea, Yoel, Habakkuk, Nahum, etc. Yona qui était dans la baleine. Donc il y en a 12. Alors nous sommes combien? 5. Yoshua 6, Shoftim 7, Shmuel 8, Melachim 9. Nous sommes 9. Après on a Yesha, Yermeya, Cheskel, ça fait 12. 12. Et après il y a, tout ça c'est un livre. Les 12 là s'appellent un livre. Donc ça fait 13. Donc nous sommes à 13. Maintenant, nous avons encore quel livre? Ketuvim.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Nevi'im Acharonim. On les appelle les Nevi'im Acharonim. Alors, nous avons les Ketuvim. Qui sont dans les Ketuvim? Qui connaît le livre de Ketuvim? Hein? Alors, Shlomo HaMelech, il a écrit 3. Shir HaShirim, Kohelet et Mishlei. David HaMelech, il a écrit le Tehillim. Alors, Ruth, c'est écrit par Shmuel Hanavi. Le livre de Ruth est écrit par Shmuel Hanavi, le livre de Ruth. Maintenant, Yirmia, il a écrit le livre de Eicha. Le livre de Eicha. Maintenant, il y en a une dame. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là. Esther, elle a écrit aussi quelque chose. La Megillat Esther. Elle a écrit, elle, avec Mordechai. Et c'est Anshei Knesset Gedolah, c'est ensemble. C'est elle qui l'a écrit. Après Anshei Knesset Gedolah, ils ont donné, ils ont repassé pour faire la dernière retouche.
Hein?
Il y a un livre Iof. Iof. Il y a un livre qui s'appelle Ezra et Nehemiah. Ezra et Nehemiah. Il y a un livre qui s'appelle Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est un livre d'histoire qui reprend encore une fois toute l'histoire depuis Adam Rishon jusqu'à Anshei Knesset Gedolah. Encore une repassée vue avec des différents détails qui n'étaient pas dans les livres avant. On ajoute encore des détails qui peuvent compléter différents détails. Hein? Daniel, il arrive ici, j'ai laissé une petite place, vous voyez. Alors, Diane, lui, il était pendant l'exil des 70 années. Alors, nous avons combien? Ici, nous avons eu 13. Ici, il y a 9. 1, Shir HaShirim, Kohelet, Mishlei, 3. Tehillim, 4. Ruth, 5. Eicha, 6. Iov, 7. Esther, 8. Ezra Nehemia, 9. Divrei Hayamim, 10. Daniel, 11. 11 et 13, fait combien? 24. Ah, Iof, on ne sait pas. Et Iof, les Chachamim se cassent la tête, qui a écrit? Il y en a un avis qui dit qu'Anshei Knesset Gedolah, ils ont écrit. Il y en a un qui dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit Iof. Il y a un qui dit, je ne me rappelle pas qui. Il y a plusieurs avis. On ne sait pas si ce Iof, il a vécu. Il y en a un qui dit qu'il n'a même pas vécu. Tout ça, c'est une histoire imaginaire, Iof. Sur Iof, pas sur la Torah ou sur Shmuel HaNavi ou sur Télé, mes trucs. Sur le livre de Iof, il y a un avis qui dit c'est une histoire imaginée avec une discussion imaginaire. C'est une discussion philosophique sur la souffrance qui existe au monde. Sur la théodicée. Vous savez qu'est-ce que c'est la théodicée? On avait dit une fois ce mot? Alors,
c'est un voyage?
Non, théodicée. Ah, ça semble un peu un mot grec. Théodicée, odyssée. Ça s'appelle théo... Voilà, il y a le mot théodicée. C'est un mot en français qui veut dire théo, ça veut dire HaKadosh Baruch Hu, Dieu. Théo, c'est Dieu. Dicé, ça veut dire il est juste. La justice divine, comment que peut-on comprendre si Dieu, il est bon, il est juste, pourquoi tellement beaucoup de gens, ils souffrent? Ce que nous avons fait en vérité dans le Rambam. Pourquoi il y a tellement beaucoup de souffrances? Et on avait les différents avis là. Ou Akadosh Baruch Hu s'en fout des gens. Ou Akadosh Baruch Hu a décidé comme ça au pif. Ou ce qu'on a vu dans Rambam. Le Rambam a dit tout est justice et tout est justifié. Toute cette discussion s'appelle la théodicée. D'ailleurs, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, il en a plusieurs chapitres pour expliquer le livre de Iof. Et les différents avis, Iof, Iof, c'était un juif, un homme, on ne sait même pas s'il était juif, on ne sait même pas s'il existait. En tout cas, c'était un homme, comme c'est décrit c'était un homme qui était tzaddik et qui était malade. Et il a beaucoup souffert. Et les copains, trois copains sont venus chez lui discuter. Ils ont discuté avec lui et chacun, il voulait prouver qu'Hachem, il est juste. Et lui, il a dit, si Hachem, il est juste, mais avec moi, il est injuste. Parce que je suis tzaddik et je souffre. Eux, ils ont dit, non, il y a quelque chose qui cloche. Sûrement, tu es rachat. Sinon, tu n'aurais pas souffert. Alors, il y a toute une discussion. À la fin de la discussion, à quelques jours, il a pris ses trois amis. Ils ont dit, vous n'avez pas bien parlé avec lui. Iof, il est plus tzaddik que vous. C'est lui, Iof, il a raison et vous avez tort. Maintenant, qu'est-ce que chacun, il a dit? Le Rambam, il explique dans l'amour Neuchim comment ça fonctionne. Il a dit, les différents avis chez les goyim sont représentés par ces différents avis chez Iof. En tout cas, ça, c'est le Théodicée, ça, c'est le livre de Iof. On va laisser quelques minutes. Une pause, on va continuer.